Nous sommes déjà le troisième dimanche de l'Avent, fête de Saint Daniel, grand prophète de l'Ancien Testament. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ce 17 décembre sur les ondes de Radio Courtoisie. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui va nous ébouriffer par sa verve, sa passion, son talent et toute sa fougue d'auteur. Franck Baugin, puisque c'est de lui dont il s'agit, nous parlera de sa pièce essentielle, dont le sous-titre est « Nul n'est censé ignorer la foi ». Nous offrirons 6 places, donc à 6 d'entre vous, que nous tirerons au sort. Pour cela, envoyez-nous vos coordonnées à magnificat@mariedenazareth.com. Le travail à deux est plus porteur et bien plus sympathique. C'est pourquoi Justina, notre spécialiste en théologie, est avec nous aujourd'hui comme chaque dimanche. Nous parlerons aujourd'hui de la sainteté, salut et déification. Bonjour Justina.
Bonjour.
Bonjour Franck, cher ami. Je suis ravie de vous accueillir à Magnificat pour votre spectacle essentiel dont l'association Marie de Nazareth est partenaire. En quelques mots rapides, vous avez été comédien, vous êtes auteur, vous avez pratiqué aussi le doublage de voix très connues, Keanu Reeves, Patrick Dempsey, Bambi aussi.
Aussi.
Ça remonte à quelques années.
Certes.
Si je vous dis Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sauté, ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs. Des doublages dans Indiana Jones, Star Trek 3. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, vous êtes auteur, metteur en scène, chef d'entreprise, mari et père de famille comblé. Et vous voilà maintenant dans une toute nouvelle aventure. D'abord, parlez-nous de ce spectacle essentiel. Mais avant tout, comment écrivez-vous essentiel?
E-2-S-E-N-C-I-E-L.
En deux mots?
En deux mots, en un mot, vous le séparez, vous, comme vous voulez, l'essentiel est là. E-2-S-E-N-C-I-E-L.
Parlez-nous d'essentiel, s'il vous plaît.
Alors déjà, bonjour à tous. Merci d'avoir la gentillesse de m'inviter. Je suis ravi de venir ici, puisque c'est une radio que j'écoute. Alors, essentiel, c'est une pièce qui remet notre foi en dignité. Ça, le postulat étant posé, je vais vous donner ce qu'on appelle le résumé de la pièce. Dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, essentiel est comme une tornade, une tempête, qui va secouer fermement un homme que les turpitudes de la vie moderne ont éloigné de l'essentiel. Cet homme, que j'ai appelé Victor, guidé par le père Xavier, va parcourir un chemin rapide, abrupt, sanglant. Chemin qui passe par la colère, le questionnement, et enfin le lâcher-prise et l'humilité qui seul mène à la porte étroite. En pleine fuite et perdu dans le désert, Victor trouvera ce qu'il ne pouvait imaginer possible, son chemin tracé par Dieu.
Alors comment avez-vous eu l'intuition qu'il fallait écrire cette pièce ?
Alors l'intuition, écoutez, je ne sais pas comment je l'ai eu, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été porté. C'est une pièce que j'ai écrit très rapidement. Bon, après, évidemment, il y a toujours... J'aime apprendre cet exemple. En substance, c'est un diamant brut. Donc, ça jaillit. La foi jaillit. Donc, c'est sorti très rapidement. Et puis ensuite, comme le diamant, je vais la polir. Donc, je vais la réécrire. Voilà.
C'est une pièce pétulante. J'ai eu la joie de la lire avant l'été. Elle est rythmée. À part le monologue de Victor au début de l'acte 2, qui est très, très touchant, inspiré d'une histoire que vous avez vécue, mais nous n'en dévoilerons pas l'issue.
Vous avez intérêt.
Et la partie où il s'adresse à Dieu, c'est une vraie partie de ping-pong. Cela doit être très éprouvant pour vos comédiens, mais cela donne une vraie vivacité au texte. Justement, il a fallu choisir les bons comédiens. Comment les avez-vous recrutés?
Les comédiens que j'ai la chance, l'immense chance, d'avoir des comédiens d'exception. D'abord, c'est les professionnels. Alors, je vais les citer, je vais répondre à votre question, mais je veux les citer parce que tous les jours recommencer, nous sommes en pleine répétition. Et sincèrement, vous savez, un texte, quelle que soit son écriture, quelle soit la façon dont vous voulez exprimer les choses et le meilleur que vous allez donner de vous-même, si c'est mal dit, si c'est pas porté, ça peut tomber à plat. Là, c'est l'inverse. J'ai des comédiens qui sont emparés du texte et qui ont un tel niveau que le texte, ils apportent une valeur ajoutée au texte qui est pour moi sublime et je m'en réjouis tous les jours. Alors, il y a trois comédiens dans cette pièce. Le premier s'appelle Boris Relinger. Donc, dans la pièce, il joue le rôle de Victor. Le deuxième s'appelle Bernard Bollet. Il joue le rôle du père Xavier. Et le troisième, je le dis pas fort, mais il a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. C'est mon frère, un de mes frères, j'en ai quatre. Il s'appelle Ludovic Bogin et joue le rôle de Ludo. Je voudrais aussi citer les techniciens. Je vais aller très vite parce que c'est des gens qui sont... Pareil, il n'y a que des professionnels. Moi, l'objectif est de proposer un spectacle vivant, mais de qualité. Alors, comme directeur technique, nous avons Pierre Stonina, qui est l'ancien directeur technique du Théâtre Mogador. Nous avons à la régie lumière Luc Chiari, que tout le monde connaît, qui est vraiment très connu dans la profession. Et puis, à la production, il est assistant metteur en scène et comédien, Romain Precastelli, qui est aujourd'hui devenu indispensable pour la bonne marche de cette pièce.
Alors maintenant que vous nous les avez présentés, comme tout le monde est très alléché, dites-nous les dates pendant lesquelles vous jouerez et nous les rappellerons tout à l'heure.
C'est gentil. Alors, Essentiel va se jouer au Théâtre Saint-Léon.
Oui.
Donc, le Théâtre Saint-Léon...
À Paris,
dans le 15e. 11 place du Cardinal Hamet. Et les dates, c'est du 11 au 28 janvier inclus. On joue les jeudis, vendredis, samedi, 20h et dimanche, 17h. Théâtre Saint-Léon, 11 place du Cardinal Hamet dans le 15e, du 11 au 28 janvier, les jeudis, vendredis, samedis à 20h et dimanche, 17h30.
Alors Franck, merci. Je vais être un peu indiscrète. Est-ce votre parcours à vous aussi d'avoir tardivement trouvé le chemin tracé par Dieu ou pas du tout ?
Ça, c'est très indiscret parce que je suis toujours très... concernant ma foi, moi, j'ai la foi. Voilà, la foi, elle est là, elle est entière. Mon parcours, c'est un peu personnel. En disant que...
Juste, je ne vous demande pas de rentrer dans les détails, mais est-ce une vocation, une découverte tardive ou alors dès le berceau, vous étiez...
Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu la foi relativement jeune, vers 16 ans. 16 à 19, 20 ans, la foi est partie, puis la foi, elle est revenue. Donc après, disons que j'ai pris quelques chemins de traverse, et puis après, les choses, elles se sont remises en place tout doucement, simplement, et c'est bien ainsi.
Alors, dites-moi, les personnes que vous ciblez, le public, bien évidemment, alors je ne vous cache pas, vous jouez au Théâtre Saint-Léon, donc, cathosphère, mais
sûr.
Comment toucher les autres ? Est-ce que vous voulez les cibler plus particulièrement ou alors, dites-nous.
Alors, d'abord, c'est une pièce, et une pièce, ça s'adresse à tous, c'est pour tout le monde. Ça, c'est le postulat numéro un. Ensuite, c'est vrai que si vous choisissez d'aller assister à un concert de rock, vous allez à un concert de rock. Là, c'est une pièce, elle est catho, mais elle reste ouverte à tous. Aux orthodoxes, aux juifs, à tous. Mais c'est vrai que le public, principalement, c'est les cathos. Maintenant, il y a des cathos compatibles et ils sont les bienvenus. Et bien évidemment, au contraire, si ma démarche n'est pas une démarche d'apostolat. C'est les gens qui vont venir, je pense, la plupart, en tous les cas, ceux que je souhaite en premier lieu voir venir, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Ils vont passer une bonne soirée. Je m'engage à ce qu'ils passent vraie bonne soirée. Alors, je ne veux pas mettre la barre trop parce que je n'aimerais pas que les gens soient déçus. Mais rien que sur le texte, les retours que j'ai sont formidables. C'est vraiment très, 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 très encourageant. Et là, les comédiens, ils nous donnent encore le maximum, ce qui fait que derrière, on va assister à un spectacle exceptionnel.
Est-ce que vous sauriez me dire, en très peu de mots, qui est la Vierge Marie pour vous ?
Marie...
Voilà, je savais que vous alliez sourire. Je connais
c'est la médiatrice attachement. De toutes les grâces. Voilà, Marie, quelle que soit votre situation, où que vous vous trouviez, que ce soit le bonheur ou que ce soit vous soyez dans une grande difficulté, vous pouvez toujours vous adresser à Marie d'une manière ou d'une autre. Elle vous répondra.
Merci beaucoup, Franck. Nous allons écouter à présent un extrait de la pièce « Merci pour ce cadeau ». Vraiment, est-ce que vous pouvez auparavant contextualiser la scène, enfin,
Oui. Alors, il y a le déroulement de l'action et de la pièce, et il y a un moment, il va y avoir une parenthèse. Et cette parenthèse, c'est pour permettre, je dirais, aux comédiens d'être encore plus près du public. Donc, il va s'adresser directement au public, mais en dehors du contexte et du déroulement de la pièce qui reprend automatiquement après la fin de la parenthèse.
Très bien, nous allons l'écouter à présent.
On voudrait me faire croire à ça ? À l'amour ? Par amour, Dieu a sacrifié son fils, son propre fils. Mais qui ferait un acte pareil ? Quelqu'un qui n'a pas de cœur, l'amour, c'est pas l'enfer. Jamais. Jamais je ne donnerai la vie de ma fille. Jamais. On peut tout me dire, même me cracher au visage, mais sacrifier ma fille sur l'autel de l'amour pour la multitude, ça, je le peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Il faut être un dieu pour faire ça. Je ne suis qu'un homme. J'ai frappé à la porte de son église, mais il ne m'a pas répondu. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas entendu. J'ai bien essayé d'entrer, mais personne n'était présent. Pas d'âme, pas d'écho. Je suis parti. Je n'avais pas de raison de rester plus longtemps. Mon temps est précieux. Je suis un homme connecté, je suis agile, j'ai des relations. De toute façon, on m'avait déjà tout dit, tout expliqué. J'étais devenu tout. J'étais moi, ma propre idole. Je n'avais besoin de personne et je voulais l'attention de tous. On m'avait tellement labouré que je ne pouvais plus sentir ni m'émerveiller. Je n'étais plus capable d'aimer. Je n'avais pas le temps. Un jour, j'y allume des cierges pour nous mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Vieille superstition enfantine. Mais le lendemain, il y a eu un terrible accident. Ma fille de 3 ans est tombée de plus de 6 mètres de haut d'une passerelle. Lorsqu'on me l'a annoncé, j'ai cru l'avoir perdue. Lorsqu'on m'a dit qu'elle était vivante, j'ai cru qu'elle serait handicapée à vie. Lorsqu'on m'a dit qu'elle était saine et sauve, je n'y ai pas cru. Je ne vous demande pas d'y croire, c'est la vérité. La vérité toute belle. Marie a protégé mon enfant parce que je lui avais demandé. Marie a exaucé ma prière. Marie, la médiatrice de toutes les grâces. La mère de Dieu avait sauvé mon enfant. C'est là que j'ai commencé à m'approcher, tout doucement. Elle avait... Je n'étais pas encore prêt. Mais je ne vous demande pas d'y croire. C'est la vérité.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous étions dans le théâtre, Franck. Merci de nous avoir offert en avant-première cet extrait d'Essentiel. Alors je rappelle les dates, du 11 au 28 janvier au Théâtre Saint-Léon à Paris, 15e.
Et je voudrais aussi vous signaler, c'est très important pour moi, parce que cette pièce participe à un projet maintenant global. Donc, c'est gratuit pour tous les religieux, les prêtres, les diacres, les sœurs, les abbés, les séminaristes.
Les religieuses.
Bien sûr, les sœurs.
Merci beaucoup.
Voilà, il faut pas, venez avec votre prêtre, venez avec, si vous avez un séminariste dans la famille, ils seront les bienvenus, on sera ravis de les recevoir. C'est gratuit pour eux.
Merci beaucoup, Franck. À présent, salut, sainteté, salut et déification. Troisième et dernière partie de votre cycle sur la sainteté. Justina, vous allez nous dire ce que veut dire être appelée à la sainteté.
Oui, donc je vais reprendre maintenant les termes qu'on a utilisés durant les 2 dernières émissions. Donc, je rappelle que Agios, c'est la sainteté ontologique. Et celle qui est propre à Dieu. Donc, la sainteté en tant que agios est en réalité le salut et la déification de l'homme. Et quand on dit qu'on est appelé car l'Église signifie en grec ecclesia l'assemblée des appelés à la sainteté, on est appelé à la déification. L'idée de la déification, ou en grec théosis, est assez peu connue aujourd'hui, même si elle remonte au père de l'Église du premier millénaire. Irénée de Lyon, qui a vécu au IIe siècle, courant l'an 170, dans sa préface du livre que je conseille toujours à tout le monde, contre les hérésies, disait « Jésus-Christ qui, à cause de son surabondant amour, est devenu ce que nous sommes afin de faire de nous ce qu'il est ». Saint Athanase d'Alexandrie, dans son traité sur l'incarnation du Verbe, à peu près avant 328, dit « Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Il s'est rendu visible dans le corps pour que nous ayons une idée du Père invisible. Et il a lui-même supporté la violence des hommes pour que nous héritions de l'incorruptibilité. Dieu est devenu homme afin que l'homme puisse devenir Dieu, sans Basile le Grand. » Et on parle bien sûr de perspectives de nature. On retrouve des citations similaires qu'on attribue aussi à saint Augustin dans ses homilies, à saint Grégoire de Nazianze et autres. Donc le salut, ce n'est pas une banalité qu'on nous présente bien souvent dans le sens où « si tu te comportes mal, tu iras en enfer, comporte-toi bien et tu auras des bonbons là-haut ». Le Christ a apporté la bonne nouvelle que l'humain peut enfin vivre sa vie auprès de son Créateur et non pas la mauvaise nouvelle que tous ceux qui ne pêchent pas comme cela nous plairait seront livrés au diablotin. L'enfer n'est rien d'autre que le fameux Sheol, qu'on a déjà parlé, l'espace de la mort, que le Christ a déjà détruit par sa résurrection. Voici ce que dit saint Jean Chrysostome, un grand saint de l'Église indivisée, dans son homilie de Pâques. « Jouissez-vous tous du banquier de la foi au trésor de la bonté, que nul ne déplore sa pauvreté, car le royaume est apparu pour tous, que nul ne se lamente de ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau, que nul ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous en a libérés. Il a détruit la mort, celui que la mort avait étreint. Il a dépouillé l'enfer, celui qui est descendu aux enfers. Il a rempli l'enfer d'amertume pour avoir goûté de sa chair. Isaïe l'avait prédit en disant « L'enfer fut rempli d'amertume lorsqu'il t'a rencontré. » Isaïe 14, 9. L'enfer est rempli d'amertume car il a été joué, bouleversé, car il a été enchaîné, bouleversé, qu'il a été mis à mort, bouleversé, car il a été anéanti, consterné, car il a saisi un corps, il s'est trouvé devant Dieu. Il a pris la terre et a rencontré le ciel. Il a saisi ce qu'il voyait et il est tombé sur celui qui ne voyait pas. Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Citation de 1 Corinthiens 15, 55. Christ est ressuscité et tu as été terrassé. Christ est ressuscité et les démons sont tombés. Le Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie. Le Christ est ressuscité et voici que règne la vie. Le Christ est ressuscité, il n'est plus de mort dans les tombeaux, car le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. À lui gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen.
Amen.
Donc, on se fiche de l'enfer. Dieu nous a donné la voie pour devenir comme lui par le Christ. L'homme est fait pour être avec Dieu. L'enfer est une souffrance pour l'homme car l'homme n'est pas fait pour l'enfer. Et l'enfer n'existe pas pour l'humain. Dans l'évangile, selon Matthieu, chapitre 25, verset 41, dans la fameuse mini-apocalypse, le Christ ordonne à ceux qui sont indignes d'aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Les anges déchus, hein.
Bien entendu. Cette citation montre que le feu éternel n'est pas destiné aux hommes, mais à Satan et son armée. La foi n'est pas une histoire de petit homme qui a peur d'une fessée, mais une histoire de l'homme qui veut être en relation avec Dieu et par cette relation espère de rentrer dans l'éternité. Et celui qu'on croit y arriver, nous, c'est-à-dire l'Église, on dit que c'est un saint. La tradition de l'Église plus tardive a mis en place des rangs de sainteté. Tout cela est en rapport avec, bien sûr, la procédure de canonisation qui a changé. Au départ, seulement les personnes mentionnées dans l'Écriture et la tradition, par exemple la Vierge Marie, les apôtres, les personnages de l'Ancien Testament, les rois, les prophètes, les patriarches, et les martyrs avaient une certaine vénération particulière, mais suite à la fin des persécutions, on voit apparaître toute une multitude de rangs liés au rang social et au mode de vie qui servent aux fidèles d'exemples pédagogiques. Il est sans doute évident qu'il serait étrange, à mon avis, de choisir ensemble patron, comme un exemple à suivre, si votre profil et votre mode de vie ne correspondent pas du tout. Un exemple, bon, selon moi, il ne serait pas très judicieux de s'inspirer d'un moine si vous êtes une personne mariée. Je sais que France n'est pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. L'ascétisme du moine peut nous faire grandir et peut nous faire avancer. Pour un couple marié, par exemple, effectivement, on peut prendre comme exemple des saints, mais on peut tout à fait s'inspirer d'autres saints.
Il peut, mais comme on dit chez nous, vous savez, surtout quand il s'agit des nouveaux convertis, des néophytes, quand vous avez un juste dans la famille, les autres deviennent des martyrs. La tradition s'est effectivement beaucoup concentrée sur les évêques et les moines, en laissant assez peu de saints. Maintenant, il y a des saints récents qui seraient des laïcs ou des simples prêtres de paroisse. Je prends les nouveaux martyrs du XXe siècle pour la Russie, et du côté de l'Église catholique romaine, on peut aussi retrouver des saints béatifiés pour le moment. Je pense notamment à Carlo Acutis qui sort du lot clérical.
C'est surtout qu'il est tout récent, il est jeune.
Voilà, qui est béatifié et qui pourrait être canonisé comme le saint patron d'Internet dans les années à venir. Moi qui suis dessus, je suis très intéressée, même si ce n'est pas de mon obédience, mais c'est bien, je trouve. Mais on peut aussi retrouver beaucoup plus dans l'histoire de l'Église primitive. Et je vous incite vivement à creuser dans l'histoire, car la vie des chrétiens d'aujourd'hui, je pense, est plus semblable à la vie des premiers chrétiens, parce que nous vivons certes à l'époque où nous sommes un peu livrés à nous-mêmes, et l'Église ne peut plus dominer l'État, et l'État ne peut pas dominer l'Église.
Merci beaucoup, Justina. Alors, nous nous approchons de Noël, puisque nous sommes le troisième dimanche de l'Avent. Je voudrais vous donner quelques lieux de messe de Noël qui pourraient vous intéresser. À la Sainte-Baume, le dimanche 24 décembre, à 22h30, il y aura une procession au flambeau et la messe de minuit à la grotte. À Saint-Jean-de-Luz, 18h30, messe en basque à la chapelle de la Sainte-Famille à Urdazuri. À 23h30, à Briennon, dans le Beaujolais, messe de la nuit de Noël. Et à l'église Saint-Georges à Célestat, dans le Bas-Rhin, il y aura deux messes, une à 18h et une à minuit, sachant qu'à 18h, nous privilégions les familles. Donc, je rappelle les places pour votre spectacle, Franck. Allez, donnez-nous envie d'y aller.
Écoutez, la foi jaillit, vous ne serez pas déçus, puisque c'est un parcours qui est exceptionnel, qui peut nous arriver à tous. Donc venez y assister, et puis vous jugerez par vous-même. Voilà.
À quelle heure?
Alors, jeudi, vendredi, samedi, 20h, dimanche, 17h30. Et puis si vous voulez, vous pouvez récupérer vos billets directement sur place, ou alors vous tapez sur votre ordinateur « Les amis de Jean-Baptiste Poquelin ».
Le tout attaché ou...
Tout attaché, « Les amis de Jean-Baptiste Poquelin ».
On connaît un peu.
Voilà, et vous tombez sur le site Hello Asso, il y a la tête du Christ qui apparaît, vous ne pouvez pas vous tromper, et la billetterie est là. Faites-vous plaisir, offrez deux places pour Noël à vos parents, vos enfants, vos grands-parents, etc.
Oui, et n'oubliez pas, c'est offert pour...
Tous les religieux, prêtres, diacres, séminaristes, sœurs,
évêque,
abbés,
pape. Pères.
Écoutez, s'il vient, on le recevra de toute façon, avec grand plaisir.
Très bien, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, merci de m'avoir reçu.
Avec joie. Alors n'hésitez pas à nous écrire, c'est vraiment pour nous une joie d'échanger avec les auditeurs. magnificat@mariedenazareth.com. J'ai volontairement changé l'adresse mail pour que vous puissiez nous écrire à cette adresse. Et pour cela, je voudrais remercier une auditrice qui nous a écrit et qui nous disait que l'ancienne adresse était bien compliquée à comprendre et à écrire. Donc écrivez-nous à magnificat@mariedenazareth.com. Écrivez-nous, conseillez-nous, critiquez-nous, nous prenons tout. Bonne semaine sur Radio Courtoisie. N'oubliez pas d'aller sur le site internet de l'association Marie de Nazareth, mariedenazarethletoutattaché.com, et notre boutique en ligne où vous trouverez des livres intelligents pour vos cadeaux de Noël de dernière minute, notamment le livre du père Zanotti Sorkin que nous avions eu la joie d'accueillir les semaines précédentes. Bonne semaine à tous.